tous les podcasts des 3-8, radiogrenouille.com.
Bonjour à tous et bienvenue ici, au petit plateau de la Friche Belle de Mai et en direct sur les ondes de Radio Grenouille 88.8 FM. C'est le deuxième de nos temps forts dans le cadre de ce week-end Made in Friche après le concert goûter plutôt flamenco auquel vous avez peut-être assisté hier. Nous vous proposons aujourd'hui le premier de nos concerts radio commentés. Alors les concerts radio commentés, c'est une nouvelle forme née à l'initiative d'Émouvance, le label marseillais, et de Radio Grenouille avec le soutien de la Friche. C'est une forme radiophonique en public pour laquelle nous lançons une invitation à un musicien à partager avec nous sa connaissance sur un thème qui le passionne, qui habite sa pratique de son instrument. Je me présente, c'est Stéphane, et je vais vous accompagner au micro tout au long de cette cinquantaine de minutes que nous allons passer avec un musicien qui va nous parler et nous déployer certaines des subtilités de Bernard Herrmann, le fameux compositeur des musiques de films de Bernard Hitchcock. Entre autres, je vous présente Stéphane Oliva. Bonjour Stéphane Oliva.
Bonjour.
Merci d'être avec nous donc pour ce premier concert radio commenté. Alors, vous vous êtes fait connaître comme musicien de jazz, Stéphane Oliva, à l'orée des années 90. Vous faites partie de cette génération de musiciens pour qui, même si vous êtes donc un improvisateur, les questions liées à l'écriture ont toujours été fondamentales et vous n'avez eu de cesse de les explorer et de marquer l'importance qu'elles revêtent pour vous, en allant jusqu'à même signer un disque inspiré par Paul Auster, donc en allant jusqu'à la littérature, mais aussi en allant vers le cinéma. Vous avez composé des musiques de films, celles des films de Jacques Maillot, par exemple, notamment, et vous êtes donc intéressé à plusieurs compositeurs de musique de films également, dont Bernard Herrmann. Alors que j'imagine que, comme tout le monde, vous avez rencontré sa musique en voyant les films d'Hitchcock, quand vous étiez petit, peut-être. Mais qu'est-ce qui vous a décidé à aller plus avant dans la découverte et l'exploration de ce compositeur, Bernard Herrmann ?
Je dirais un peu comme tout le monde. Au début, on regarde les films, on aime ces films. Et un jour, j'ai eu l'occasion de faire un disque de jazz, entre guillemets, qui devait reprendre des thèmes liés au cinéma. Et j'ai demandé à mon producteur de l'époque, Jean-Jacques Puccio, s'il trouverait l'idée intéressante que je reprenne les musiques globalement de tous les films que j'avais aimés, comme Rosemary's Baby, comme Vertigo, et de jouer sur l'ambiance de ces films plutôt que de jouer sur leur simple thématique. Et c'est ce que j'ai fait, et en découvrant cette approche, j'ai redécouvert les films par la musique. Et c'est pour ça que j'aime bien parler de la musique de film, parce que ça fait redécouvrir le cinéma d'une façon complètement différente. C'est comme si on rentrait un peu dans le bloc moteur du film, car on est dans un espace très intime par rapport à l'histoire et au film.
Alors, dans vos réinterprétations de musique de film, puisque c'est ce dont il s'agit, notamment sur le disque que vous évoquez, Jazz and Emotion, sorti en 98, néanmoins, vous ne vous placez pas nécessairement comme un spécialiste de musique de film. Il s'agit plus de rendre compte d'un ressenti qui est là aussi le ressenti du spectateur. Et d'ailleurs, c'est ce que vous ferez à plusieurs moments au long de cette émission, au piano qui se trouve ici, donc au centre du petit plateau de la Friche Belle de Mai, surplombé par un écran où nous allons vous projeter. Les auditeurs de la Radio Grenouille n'entendront que la bande-son, mais disons que pour ce qui nous concerne, ça va être l'essentiel. Un écran sur lequel nous allons projeter quelques-uns des extraits, notamment de Vertigo et de Psychose, des sommets de la collaboration entre Bernard Herrmann et Alfred Hitchcock. Mais on va commencer avec un autre film, et on va aller vers le piano si vous voulez bien, Stéphane. Bernard Herrmann, né en 1911, dans une famille juive new-yorkaise dont le père Abraham le pousse à poursuivre des études musicales. Il se construit sa propre identité sous l'influence notamment un peu des impressionnistes français Ravel et Debussy qui vont rester un petit peu ses maîtres à penser, on pourrait dire. Il côtoie des gens comme Gershwin, par exemple, donc c'est un New York musical en pleine ébullition à cette époque, dans les années 30. Et il rencontre, après avoir été embauché à la Columbia Broadcast Station, la radio de Columbia, il rencontre Orson Welles, avec qui il travaille sur l'adaptation radiophonique de La Guerre des Mondes, qui fera beaucoup de bruit, si je peux me permettre l'expression, le roman d'H.G. Wells. Et c'est aussi Orson Welles, ils sont amis en fait, hein, qui va l'emmener à Hollywood pour travailler sur le film Citizen Kane, qui sortira en 1941.
Je pense que l'originalité de Bernard Herrmann vient sûrement du fait qu'il ait commencé à aborder la musique radiophonique. Car à la radio, donc, il faut forcément avoir une force évocatrice très forte. Et il a très bien compris ce que la musique pouvait avoir d'indispensable à un film. Surtout le film devenu sonore, on pourrait imaginer que la musique pourrait être un élément décoratif. Lui, a vraiment réfléchi pourquoi on fait encore de la musique dans un film et quelle est sa place à lui trouver. Comme exemple, je vais prendre, puisque Citizen Kane est un film du début des années 40, je vais prendre un autre film symbolique, un film noir d'Otto Preminger, Laura. Et là, on a l'archétype de la mélodie qui se créait à l'époque pour une musique de film, qui consistait essentiellement à trouver la mélodie la plus forte associée au personnage principal, un thème principal.
En l'occurrence, une mélodie signée David Raxin pour ce thème Laura, qui deviendra aussi un standard de jazz.
Donc on a une mélodie très belle, très cadrée, sous forme classique. Donc on a ici un thème qui va être une sorte de, je dirais, une éponge affective des sentiments du spectateur qui va y mettre toute la mémoire de ses émotions.
Et c'est un thème qu'on peut chanter aussi, et c'est une chanson.
Et qui est devenu après un grand classique sur lequel on peut improviser, qui est issu du film mais qui a sa vie propre après, qui devient une sorte de mélodie autonome.
Alors, c'est très romantique. Alors, Herman est un romantique aussi, au sens musical du terme. Mais par contre, son approche de la musique de film s'inscrit radicalement à l'opposé de ce que fait David Raskin avec Laura.
Oui, tout à fait, à tout point de vue. Déjà, l'orchestration. Il va, au lieu d'utiliser les simples violons, l'orchestre hollywoodien type, il va créer des assemblages insolites d'instruments. Il va mettre beaucoup de bassons, de clarinettes. Il va même utiliser des vibraphones. Le début de Citizen Kane est éloquent de ce point de vue. Il a des motifs plutôt que de mélodies, des éléments insolites. Fantomatique. Et des dissonances qui sont comme l'apparition de spectres. Donc il y a une forme symbolique de la musique qui accompagne les images, comme on va le voir en regardant le début de Citizen Kane.
Thank you. 1941, donc Citizen Kane, un film un peu mythique, hein, signé par Orson Welles, où on a vu les images, où vous avez entendu, si vous écoutez ce concert radio commenté sur les ondes de Radio Grenouille. Nous sommes toujours avec Stéphane Olivin, et ce film qui commence par la fin, où on voit le mania de la presse, James Foster Kane, mourir dans son manoir de Xanadu. Alors, Bernard Herrmann va rapidement se faire un nom en tant que compositeur de musique de film. On va aller en accélérer un petit peu sur sa carrière. Il commence à travailler ensuite avec Hitchcock en 1955 pour une dizaine d'années, presque autant de films. Et rapidement, leur collaboration va atteindre des sommets avec un autre film qui est considéré comme un des grands moments de l'histoire du cinéma, notamment 1958, c'est Vertigo, avec James Stewart et Kim Novak.
C'était l'assemblage idéal, Bernard Herrmann et Alfred Hitchcock. Hitchcock est un génie de l'écriture cinématographique et ne maîtrisant pas trop la musique, il a l'intuition que Bernard Herrmann va opérer dans un secteur qu'il ne sait pas faire. Et c'est exactement ce qui se passe. Il travaille en complémentarité avec l'œuvre d'Hitchcock, on peut vraiment parler d'œuvre, et son approche est radicalisée, c'est-à-dire que le seul motif principal de Vertigo s'intéresse non plus à dépeindre là aussi une mélodie ou un thème principal associé au personnage, mais il crée directement quelque chose en symbiose avec le motif du vertige. Ce qui veut dire que Bernard Herrmann arrive à trouver, en assemblant simplement deux arpèges en sens contraire, une musique qui, savamment orchestrée comme il sait le faire, va surpasser toute la force évocatrice de la plupart des musiques de son temps et va influencer tous les compositeurs par la suite.
Et ici, on entend bien en effet la tension et la peur provoquée par notamment le vertige de Scotty, le personnage interprété par James Stewart. Vertige et crise de vertige qui vont d'ailleurs lui causer pas mal de problèmes. Et c'est un vertige des hauteurs, mais ça va être aussi un vertige de l'amour.
Donc il travaille sur le subconscient et le spectateur reçoit cette musique-là pour se mettre en état émotif du personnage principal. De la même façon, Hitchcock place le personnage de Madeleine, joué par Kim Novak, vu par les sensations de James Stewart, qui joue le rôle du détective privé pris par ses vertiges, qui essaye de renouer avec son métier. Et il crée sur Madeleine un thème qui pourrait presque s'associer à un parfum, tellement il est léger, associé sur la bande-son, on entend tous les pas, on entend tous les bruits du restaurant, et aussi associé au pouvoir attractif qu'exerce déjà Madeleine sur James Stewart, avec ce thème très léger. Regarde cette scène dans le restaurant.
Thank you.
la première vision qu'a Scotty, le personnage de James Stewart, de Madeleine, où déjà, elle est de dos, et d'ailleurs on voit déjà, on va y revenir tout à l'heure, mais son chignon en spirale, et déjà, en effet, comme un parfum qui exhale de loin, le magnétisme commence à s'exprimer sur Scotty, et de manière, on a l'impression un petit peu inéluctable comme ça, et ça va monter au moment où elle s'approche de lui, en ce sens-là, vous avez vraiment raison quand vous dites que c'est comme un parfum, puisque le thème atteint son intensité au moment où elle est, Madeleine est vraiment toute proche de Scotty, et ce côté inéluctable déjà préfigure le fait que cette histoire d'amour n'est en fait qu'une machination, un piège dans lequel d'ailleurs Scotty va tomber à pieds joints, si j'ose dire.
Oui, car toute la musique de Vertigo utilise cette spirale aussi bien musicalement que visuellement, et on a donc des tourbillons, soit à l'extrême ralenti. Donc quand les tourbillons sont à l'extrême ralenti, donne l'impression au thème de se renouer sur lui-même et d'emprisonner le personnage. Et aussi, même dans les scènes fonctionnelles, comme la scène qui se passe sur le début du film d'action, Herman va créer des tourbillons de cordes à des vitesses différentes, un peu comme ça. Avec cet accord d'effroi qu'on va entendre, qui n'est rien d'autre finalement que l'accord du... mais joué de façon... toutes les notes ensemble. Donc on regarde la scène sur les toits.
La peur de Scotty accroché au toit, qui va causer la mort d'un de ses collègues policiers d'ailleurs, et cette culpabilité qui pèsera d'ailleurs sur le personnage et qui est un des nombreux thèmes récurrents du film. Et en effet, on a l'impression que chaque mouvement, comme celui qu'on entendait au tout début du film, est finalement dans cette forme un peu en spirale, un différent moment d'un même mouvement qui s'étendrait sur toute la durée du film en fait.
Oui, et puis Herman arrive à créer vraiment un sentiment de terreur. C'est vraiment la musique est terrifiante. Il arrive à compléter l'image qui est déjà tout à fait novatrice avec les espèces de zoom pour créer le sentiment de vertige. Et donc l'art d'Herman se passe ici de toute mélodie pour créer son travail, son empreinte psychologique sur le spectateur.
On va regarder la scène du musée. Scotty, séduit par Madeleine, décide de la suivre. Et il la suit jusqu'au musée où le chignon dont on parlait tout à l'heure va prendre toute son importance. Vous vous écoutez ou vous regardez toujours ici au petit plateau de la Friche Belle de Mai, le concert radio commenté sur Radio Grenouille avec Stéphane Oliva. On regarde ce nouvel extrait du film Vertigo d'Alfred Hitchcock. Thank you.
Say, will you tell me something? That lady sitting in there, who's the woman in the painting she's looking at?
Oh, that's Carlotta. I find it in the catalog. Portrait of Carlotta.
May I have this?
Yes.
Thank you.
Là, encore une fois, cet extrait musical est pour moi un chef-d'œuvre, à la fois de simplicité, d'économie de moyens, de complémentarité à l'image. Hermann crée juste des notes de violon suraigu avec juste un petit rythme sur lequel il va exprimer tout le désarroi et l'incompréhension de Scotty en laissant errer littéralement juste des tierces majeures. Semble n'aller nulle part d'autre que tourner en rond. Puis harmoniser avec les clarinettes. Scènes de filature, on va avoir des motifs un peu équivalents qui expriment la grande errance en fait de Scotty, qui est lui-même peu à peu pris au piège et qui crée le temps en suspens. Avec un accord trouble pour monter la pression à demi-ton au-dessus. Crée donc vraiment la sensation de suspendre le temps. Et il va toutefois créer une sorte de mélodie, qui est une mélodie piège, pour le thème d'amour, en fait, cet amour étrange qu'il noue avec Madeleine, avec une sorte de thème d'inspiration, comme on peut en trouver dans la musique de Richard Wagner, c'est-à-dire des longs motifs en spirale modulante. Romantique, mais qui finalement là aussi ne conduisent nulle part.
Alors avant de quitter Vertigo et d'aller vers Psychose, le deuxième des films d'Alfred Hitchcock dont on a décidé de commenter la musique dans ce concert radio commenté, la musique de Bernard Herrmann, je vais vous laisser un petit moment au piano, Stéphane Oliva, pour nous donner votre interprétation de la musique de Vertigo. Et on se retrouve juste après, dans une poignée de minutes. Bonne écoute. Thank you. Stéphane Oliva en direct sur Radio Grenouille. On est toujours dans ce concert radio commenté autour des films, des musiques des films signés par Bernard Herrmann et notamment celui-ci, Vertigo, Alfred Hitchcock, 1958. Ils vont continuer à travailler ensemble et pendant ces années-ci, ils signent quelques chefs-d'œuvre. La mort aux trousses en 1959 et puis Psychose en 1960. Un film qui est absolument pas destiné au succès au cinéma a priori, en noir et blanc, un film plutôt art et essai. Hitchcock recontacte Herrmann pour ce film où il va là aussi, où sa démarche très singulière va faire des merveilles à Stéphane Oliva.
Oui, là on a tout de suite une réponse d'Herrmann au noir et blanc d'Hitchcock, alors que, comme on l'a vu, Herrmann a développé la subtilité de l'alliage des timbres sonores en mélangeant les textures sonores les plus improbables, entre les bassons, les clarinettes basses doublées, etc. Il répond au noir et blanc en n'utilisant que des cordes. Et on va regarder le tout début du film, le long travelling du début de Psychose.
Did eat your lunch, did you?
I better get back to the office. These extended lunch hours give my boss excess acid.
Why don't you call your boss and tell him you're taking the rest of the afternoon off? Friday anyway, and hot.
Dans cet extrait qu'on vient de voir, on voit que Herrmann a encore une nouvelle idée, celle de suivre le travelling créé à l'image en créant un musicalement par la musique. C'est-à-dire, littéralement, il va prendre juste un seul accord et il va opérer un mouvement sur le piano, on le voit très bien, de droite à gauche, puis de gauche à droite, simplement en utilisant les mêmes notes de l'accord renversé. Avec juste un élément de respiration qui pourrait être les soupirs des amants. Il repart. Et ainsi de suite. Encore une fois, la simplicité du processus, il n'y a rien à rajouter, donc il n'y avait aucune raison de faire plus compliqué. Et il intègre maintenant des techniques cinématographiques.
Et puis aussi ce travail sur le découpage avec la bande-son qu'on entrevoit là, qui sera poussée au bout avec le travail qu'il fait sur les oiseaux, où il n'y a plus que d'ailleurs, il n'y a plus de musique, je crois, hein, d'ailleurs, dans les oiseaux.
Il était responsable de la bande-son néanmoins.
Et alors, dans Psychose, il y a néanmoins aussi des thèmes, hein, à pas proprement parler, qui là aussi viennent illustrer des personnages. Et c'est l'occasion pour Herrmann de montrer tout un travail de contraste, notamment entre les deux personnages interprétés par Janet Leigh et Anthony Perkins.
Oui, alors pour ce thème de Marion, interprété par Janet Leigh, Herrmann va utiliser une mélodie naïve, très simple, qui montre que le personnage a une forme d'innocence et qui est complètement dépassé par son propre geste. Et il va créer ce qu'on appelle en musique quelque chose qui est complètement diatonique, c'est-à-dire aucune note modulante. En l'occurrence, par exemple, toutes les touches blanches du piano, juste cette mélodie. De là, il rajoute juste une note descendante, mais pour donner une espèce de trouble à cette mélodie naïve, pour déjà intégrer quelque chose qui va donner beaucoup d'angoisse, il rajoute juste une voix chromatique. crée une sorte de malaise dans le thème. Or, justement, ce chromatisme vient du thème complètement fou du personnage interprété par Anthony Perkins, qui va d'ailleurs être perturbé toute sa vie par ce rôle, qui joue le rôle de Norman Bates. Et là, il crée un thème associé à la folie, dans un univers complètement dodécaphonique. Donc il y a un lien entre les deux thèmes et ce lien chromatique rend fatal un petit peu l'association.
La rencontre.
Et
on va regarder un deuxième extrait. Alors on regardera pas peut-être quelques mots sur la scène de la douche. Alors on va pas regarder la fameuse scène de la
tout
douche.
Tout le monde connaît cette scène, mais ce qu'on peut dire, c'est que Hitchcock ne voulait pas de musique dessus. Et très certainement parce que dans tout le film Psychose, une importance énorme est donnée à la bande-son et le symbole du bruit de l'eau pour représenter la mort suffisait. Mais Herman va signer une de ses partitions les plus géniales, là encore une fois, que Hitchcock va tout de suite adopter. Il va créer quelque chose en harmonie avec les coups de couteau, le souvenir des oiseaux, puisque Norman Bates est passionné de taxidermie. Tout cela en créant juste un amas de dissonances qui ressemble vraiment à des coups de couteau cinglants et des coups de bec d'oiseaux. Des accords comme un état de choc. Car il ne faut pas oublier que, à l'époque, de voir l'assassinat du personnage principal au bout de quelques minutes du film créait vraiment dans le public un état de choc. Donc la musique suit complètement, là, cette fois-ci, l'état de choc. Du spectateur. On peut encore aussi noter que il y a tout de suite quelque chose de fataliste dès le début du film, avec cette espèce de danse diabolique qui démarre. Comprend tout de suite que le film va nous amener ailleurs et que les personnages ne maîtrisent pas leur destin.
Et que Marion, en arrivant dans ce motel, en effet, va faire une rencontre mortelle. L'arrivée de Marion donc au Bates Motel, l'une des fameuses scènes de Psychose. Bernard Herrmann et Alfred Hitchcock vont finir par se brouiller en 1966. On ne va pas rentrer dans les détails. C'est ce qui voudra d'ailleurs à Herrmann de quasiment émigrer à Londres, de quitter la Californie pour émigrer à Londres. Néanmoins, bon, il continuera à travailler dans le cinéma, par exemple Jason et les Argonautes en 1963. Pour la télévision, beaucoup aussi, où son influence est très marquante également auprès des compositeurs de télévision. Et puis, une fois qu'il est souvent à Londres, il y a un jeune réalisateur français, François Truffaut, en 66, qui fait appel à lui pour Fahrenheit 451. Et là, c'est le moment où il a complètement arrêté de travailler pour Alfred Hitchcock. Mais Truffaut est un petit peu le premier à refaire appel à lui, alors qu'il va connaître une période un passage à vide, avant que une nouvelle génération à Hollywood ne fasse appel à ses talents de compositeur.
Oui, comme Brian De Palma, par exemple, avec Obsession ou Sisters. Il avait déjà travaillé avec d'autres réalisateurs, comme Robert Wise, pour Le jour où la Terre s'arrêtera, Mankiewicz, pour le très très beau Le fantôme de Madame Muir. Mais avec Scorsese, qui est inconnu totalement aux yeux de Bernard Herrmann, Scorsese a l'audace d'appeler Bernard Herrmann pour son formidable Taxi Driver, qui a eu la Palme d'Or d'ailleurs en 1976.
Alors que Scorsese était tout jeune encore, et vraiment un très jeune cinéaste.
Y compris les acteurs fabuleux qui jouent dans ce film, qui sont rien d'autre que Harvey Keitel, Robert De Niro,
et Jodie Foster.
Et qui étaient vraiment toutes jeunes à cette époque-là. Et Herrmann va saisir l'occasion finalement pour renouveler son langage d'une façon qui pourrait paraître plus classique, en revenant un petit peu à l'idée du premier thème que j'ai joué tout à l'heure de Laura. Il va s'essayer pour une des toutes premières fois un thème de jazz. Et ce thème de jazz assez structuré, assez formel, que je vais vous jouer ici. Deuxième partie, plus chromatique. Herrmann, d'une part, ne fait entendre ce thème dans son intégralité qu'à la toute fin du film, en fait au générique de fin. Et il crée des va-et-vient constants entre des variations très sombres sur ce motif qui, lorsqu'il arrive, nous semble nous libérer. En fait, libère le personnage joué par Robert De Niro, qui semble pris par toutes les terreurs qu'il sait se déroulait en parallèle dans la ville de New York, dont il fait le chauffeur de taxi. Et dans son taxi, il a la sensation de survoler tout ça. Mais dès le début du film, il y a, par Scorsese et Herrmann, des cassures qui se font entre un espèce de roulement angoissant. Lequel émerge le thème. Et pour revenir aux cassures. Et en même temps, il comprend vraiment la force du jazz qui consiste essentiellement à laisser le compositeur, l'interprète, le saxophoniste en l'occurrence, s'approprier la mélodie et improviser autour. Et les improvisations du saxophone alto sont énormément pour la beauté de ce thème. On va regarder le générique du début de Taxi Driver, mais avant, on va faire un petit passage par le générique de Vertigo, Simplement pour vous montrer que Scorsese, puisque Bernard Herrmann est mort juste avant la sortie du film, a dédié ce film à Bernard Herrmann. Et le générique entier de Taxi Driver est aussi un clin d'œil, c'est le cas de le dire, au générique de Vertigo. Donc on va regarder un petit peu en parallèle le début de l'un et l'autre.
De Vertigo avec un très gros plan sur le regard de Kim Novak, et on va regarder ensuite donc le générique de Taxi Driver, première et dernière incursion de Bernard Herrmann dans le jazz, qui mourra même, je crois, précisément le soir de l'enregistrement final de.
Oui,
en
assistant à l'avant-première, je crois. Ouais.
Sur la musique, en effet, un travail aussi, on revient à des techniques vraiment cinématographiques. Hein. La musique est véritablement montée avec, en effet, les cassures que vous nous expliquiez tout à l'heure au clavier, Stéphane Olivier, au milieu de ce thème relativement classique. Et ces gros plans donc, de Scorsese sur le regard désabusé de Robert De Niro en clin d'œil au générique de Vertigo pour ce film Taxi Driver dédié à Bernard Herrmann.
On a d'ailleurs, d'une part, un très beau exemple un très bel exemple de thème de jazz orchestré, enfin, comme une sorte de ce qu'on appelle en musique le troisième courant, qui mélange le jazz à de la musique classique. Alors, en l'occurrence, il mélange le jazz à son propre univers musical, et on revoit bien l'instrumentation insolite. Là, encore une fois, ce n'est pas des cordes hollywoodiennes qui accompagnent le saxophone, mais des assemblages de cuivre et de sonorités insolites. Derrière la superbe mélodie développée par le saxophone alto.
Stéphane Oliva, on arrive bientôt à la fin de ce concert radio commenté. Pour la petite poignée de minutes qui nous reste, vous vouliez terminer par un moment de musique qui synthétise un petit peu votre interprétation de différents thèmes d'Herrmann dans son travail après Alfred Hitchcock, et notamment ce Taxi Driver, mais aussi le travail qu'il a pu faire avec François Truffaut ou Brian De Palma. Je vous laisse donc au piano.
Merci beaucoup.
Merci Stéphane Oliva. C'est la fin de ce concert, Radio Commenté. Merci pour ce survol de l'œuvre de Bernard Herrmann, on peut le dire, hein. Rapide mais absolument pas dénué de profondeur. Je rappelle que vous avez signé deux albums consacrés à la musique du compositeur, à votre réinterprétation de sa musique, Ghosts of Bernard Herrmann et Lives of Bernard Herrmann. Et puis entre autres choses, vous venez il n'y a pas très longtemps de sortir un projet consacré à la musique de Godard, hein, aussi.
Oui, ça s'appelle Vaguement Godard.
Donc on espère que ça vous aura donné envie, cette émission, d'écouter ces disques, mais aussi de revoir les films d'Alfred Hitchcock et les autres films que nous vous avons rapidement présentés aujourd'hui pour ce donc, premier concert radio commenté. Merci beaucoup à Jean-Baptiste à la réalisation, à Nelly et Gilali de Radio Grenouille, à l'équipe technique de La Friche, entre autres et notamment Fabrice et Sarah qui nous ont accueillis ici au petit plateau à La Friche Belle de Mai. Nous étions en direct pour ce premier concert radio commenté. On espère qu'il y en aura d'autres et vous le retrouverez prochainement en écoute en podcast sur notre site internet www.radiogrenouille.com par exemple. Merci Stéphane Oliva.
Merci et merci à Émouvance aussi, bien sûr.
Bien sûr. Merci à Émouvance qui est à l'origine de ce concert et on espère très fortement qu'il y aura d'autres rendez-vous de ce type. Vous écoutiez Radio Grenouille en direct, c'est la fin de cette émission. Au revoir.
Chronique, émission spéciale, sélection musicale, radiogrenouille.com.